Un crime, Georges Bernanos. Deuxième partie, chapitre 1er, suite et fin. L'idée lui était venue brusquement de gagner le presbytère par un chemin remarqué la veille, et qui d'ailleurs, sans issue, aboutit à un terrain vague que les villageois nomment encore le Marais, bien qu'il n'y subsiste de l'ancien étang disparu qu'une mare boueuse à peine visible sous l'amas de feuilles mortes. Du point le plus élevé, le regard peut plonger dans le petit jardin de la cure, clos seulement d'une haie jadis assez épaisse, mais que le bétail a crevé en maints endroits et si maltraité qu'on a dû la renforcer d'un double treillage de fil de fer. La maison, il est vrai, reste presque tout entière invisible derrière son maigre massif de laurier, et même en se tenant le plus exactement possible dans l'axe de la grande allée, on ne distingue guère que la porte principale et son ridicule perron. Le juge resta longtemps immobile, les yeux fixés sur les marches. Assurément, le presbytère était vide, et Madame Céleste n'en eût pu refuser les clés. Mais il était dangereux de compter sur la discrétion de la vieille servante, et une visite officielle justifiait les pires soupçons, risquerait de compromettre irréparablement le curé de Mégère. Pourquoi traiter en suspect un homme qui m'a prêté jusqu'ici tout le concours dont il était capable, pensait le magistrat. Je n'en obtiendrai rien par violence. Mais un autre scrupule le retenait encore, auquel il n'aurait su donner un nom. Il passa une jambe par-dessus la haie et se sentit aussitôt trempé jusqu'au ventre. L'eau ruisselait des branches et l'effort qu'il fit pour les écarter ne réussit qu'à glacer ses bras, sa poitrine. Rageusement, il sauta dans le verger où ses deux pieds, en se posant, firent gicler la boue à la hauteur de ses hanches. La maison lui apparaissait maintenant tout entière et si proche qu'il crut rêver. Avec ses étroites plates-bandes bordées de buis, ses allées minuscules, les poiriers galeux taillés en quenouilles, le jardin semblait dessiné en trompe-l'œil par quelques rapins facétieux. Une bêche oubliée, dont le fer luisait encore sous la pluie, paraissait presque énorme. Le petit juge la ramassa d'un geste machinal, puis la repoussa contre la haie en sifflotant. Il s'étonnait d'avoir fait si vite le chemin de son hôtel au presbytère, avec l'impression vague d'être dupe d'on ne sait quel ingénieux trucage. Sacré pays! Dès qu'on met le pied hors des routes, d'ailleurs étrangement zigzagantes, toute sérieuse estimation de distance devient impossible, et le plus habile y circule comme à travers un labyrinthe. Sa surprise n'était pas moins grande de ne plus rien découvrir du village, pourtant si proche, de se trouver là ainsi qu'au fond d'une cuvette, alors que depuis sa sortie des quatre tilleuls, il n'avait cessé de grimper. Rien, pas même l'angle d'un toit, une fumée. Se pouvait-il que même du premier étage de cette bicoque, le regard portât aussi loin que l'avaient prétendu ensemble Madame Céleste et le curé de Mégère? Il fit quelques pas, se trouva au pied du perron. L'eau coulait goutte à goutte d'un chaînon invisible, avec une plainte étrange, une sorte de tintement cristallin, pareil à l'appel du crapaud. C'était le seul bruit qui troubla le silence, car la brise du sud, toujours légère en cette saison, venait de tomber tout à fait. La main du magistrat se posa doucement sur la porte close, puis sur la poignée de cuivre qu'il manœuvra presque à son insu. Il entendit claquer le loquet, perdit l'équilibre, cogna du genou les marches glissantes. Une seconde encore, il hésita devant le corridor ténébreux, puis après un dernier coup d'œil au jardin solitaire, il entra. « Qu'est-ce que tu fiches ici, galopin ? » dit-il. « On te cherche partout. » Le visage du petit clergeon venait d'apparaître et de disparaître aussitôt, mais l'enfant jugea sans doute inutile de lutter plus longtemps avec un aussi rude adversaire, et il sortit de la chambre fixant sur l'intrus un regard pensif. Les persiennes closes ne laissaient passer qu'un jour trouble et sans couleur. Avec une vivacité surprenante, le juge s'était accroupi devant le foyer, retournait de la main les cendres brûlantes. « Sais-tu que ça pourrait te coûter cher, imbécile ? De quoi te mêles-tu ? » Il s'essuya les doigts à sa manche en grimaçant de douleur et vint lentement se placer entre le seuil et sa victime, lui coupant ainsi toute retraite. Le garçon, d'ailleurs, ne cherchait pas à fuir. Il se rapprochait au contraire à pas mesurer, s'efforçant de donner à ses traits puérils une expression d'énergie et de gravité. « Ne fais pas le malin, ne va pas te monter la tête. Et d'abord, jette un peu de bois sur le feu. Nous avons besoin de causer, toi et moi. » Mais les mains du petit tremblaient si fort qu'il ne réussissait pas à délier le fagot. Le juge dut lui venir en aide, disposa lui-même les brindilles avec une lenteur voulue. Ils étaient agenouillés côte à côte ainsi que deux camarades à l'étape, préparant leur gîte pour la nuit. Les branches humides écumaient et sifflaient dans l'âtre sans flamber. « Sais-tu où est le bidon de pétrole ? Apporte-le-moi. » Docilement, le clergeon sortit, alla vers la resserre dont on entendit grincer la sourde porte de chêne. Déjà, le bras du juge se glissait entre le coffre à bois et la muraille, ramenait au jour un vieux portefeuille dont le contenu disparut en un clin d'œil dans la poche de son veston, tandis qu'il repoussait de l'autre main l'étui vide. « Pas besoin de pétrole, » dit-il sans tourner la tête. « Les bûches commencent à flamber. » Debout maintenant, il tendait vers le foyer la jambe de son pantalon raide de boue. L'enfant s'était assis à ses pieds, la tête inclinée sur sa poitrine, et le juge voyait frémir ses maigres épaules. « Monsieur le curé, t'a-t-il demandé de brûler tout ce que tu trouverais encore dans sa chambre, ou l'as-tu fait sans son ordre de toi-même ? Réponds. » « De moi-même, » répliqua le petit d'une voix presque inintelligible. « Mais vous pouvez m'interroger tant que vous voudrez, je ne sais rien. » « Écoute, André, » continua doucement le juge, « me crois-tu réellement ton ennemi ? Regarde-moi en face, n'aie pas peur. » Il prit entre les mains la nuque délicate, tourna de force vers lui un pâle visage exténué aux paupières closes. « Je vais te parler comme un homme. Je ne te reproche pas de l'aimer, vous vous ressemblez. Voilà 10 ou 15 ans, il devait être un petit garçon comme toi, aussi méfiant, aussi fier, aussi passionné. Tu seras bientôt prêtre comme lui. » Les paupières du petit battirent et laissèrent filtrer entre les cils un regard que le juge ne put soutenir. Il détourna le sien, rougit. « Crois-tu qu'il me plaise plus qu'à toi, les gens d'ici ? Je les connais, va. Des brutes. Pas moyen de raisonner avec des brutes. Il s'agit de tenir bon, voilà tout. C'est comme les bêtes. Ne tourne jamais le dos à un chien, il te sautera dessus. Pourquoi notre ami a-t-il tourné le dos ? Je ne demande qu'à respecter son secret s'il en a un. Les prêtres sont les prêtres. J'ai servi, jadis la messe, moi aussi. J'étais un bonhomme très sage, très pieux, dans ton genre. Ne me prends pas pour un de ces francs-maçons que tu vois dans le pèlerin, le nez en banane et le tablier sur le ventre, et... Retiens donc bien ce que je vais te dire. Ouvre tes oreilles. Dans une heure ou deux, je serai redevenu juge d'instruction, et si nous nous parlons de nouveau, ce sera nécessairement sur un autre ton. Eh bien, j'étais si loin de m'opposer au départ de ton ami, que nous avions convenu ensemble du jour, de l'heure. Oui, mon garçon, je lui rendais sa liberté aujourd'hui même sans doute, demain sûrement, et j'aurais trouvé un prétexte plausible de quoi faire taire les mauvaises langues. Bref, je lui avais donné ma parole de fermer les yeux, tu comprends ? Et le voilà qui nous file entre les pattes, risque de mettre le pays sens dessus dessous. Tu lui as donné ton cœur, tu veux lui rester fidèle coûte que coûte, soit. Mais tu ne vas tout de même pas te croire capable de soutenir un interrogatoire, un vrai. Tu finiras toujours par dire des bêtises, tu le compromettras malgré toi. Je ne veux pas de ça, moi, entends-tu ? Et dans l'intérêt de la justice, d'abord. Au point où nous en sommes, la moindre gaffe est irréparable. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une instruction criminelle, mon petit. La machine est difficile à mettre en route. Mais d'un brutal, une fois parti dans un sens ou dans l'autre, sauf qui peut, je n'en serai plus maître. » Il regardait avec une surprise grandissante, les deux yeux fixés sur lui, où brillaient les dernières larmes. La méfiance y passait encore parfois comme une ombre, une ride de l'eau, mais il resplendissait d'intelligence, de courage, d'une sorte de complicité passionnée. Le juge ne se souvenait pas d'en avoir jamais vu de pareil, ni qu'il eût ému si profondément, pour il ne savait quelle contradiction secrète, indéfinissable. Il se sentait les pommettes brûlantes, la gorge sèche. « Nous devons désormais agir d'accord, » reprit-il, en s'efforçant d'affermir sa voix. « Réponds maintenant franchement à la question que je t'ai posée tout à l'heure. Oui ou non, monsieur le curé t'a-t-il chargé de détruire des papiers, ou quoi ?»« Non, » dit l'enfant. Il m'a demandé seulement de repasser par le presbytère. Il avait emporté la clé de sa chambre et ne voulait pas qu'on eût à forcer la porte. J'ai trouvé des lettres sur le coffre et dessous. Je les ai brûlées sans les lire. Sous le coffre à bois, montre. Les paupières du petit Clergeon eurent un imperceptible battement qui pouvait passer pour une réponse, et il glissa distraitement son bras dans l'intervalle laissé libre entre la caisse et le plancher. Tout à coup, le mince visage parut se creuser, blêmi. « Qu'est-ce qui te prend ?» La main du juge s'était posée sur le coude de l'enfant, puis remontait le long de la manche. Leurs doigts se refermèrent ensemble sur le portefeuille, mais ceux du Clergeon se desserrèrent aussitôt. Ils étaient maintenant debout côte à côte devant l'âtre en flamme. « Chacun son métier, que veux-tu ? » Du bout de sa bottine, il rapprocha les bûches noircissantes. « À t'entendre, monsieur le curé ne t'aurait envoyé ici que pour rapporter une clé oubliée. Si tu le dis, personne ne te croira. Il ne faut donc pas le dire. Moi, je te crois. Je crois à ton affirmation parce qu'elle est absurde. Tu es jeune et la jeunesse ne ménage pas ce qu'elle aime. Tu conduirais tout droit ton idole à l'échafaud, rien que pour l'honneur d'y monter avec elle. On ne plaisante pas avec un cœur de 15 ans. Et ton grand ami te ressemble, il dramatise lui aussi. À vous deux, vous finiriez par la réussir, votre catastrophe. Vous l'auriez, votre erreur judiciaire. Sacré nom d'un petit bonhomme, quand vous me mettriez le nez sur la piste, je ne la suivrais pas. Je m'en fiche des secrets du curé de Mégère, entends-tu ? Et voilà ce que j'en fais de ce portefeuille. » Il posa délicatement l'étui de cuir sur les cendres rouges, culbuta par-dessus l'échafaudage des bûches. L'enfant suivait des yeux chacun de ses mouvements avec une attention extraordinaire. « Le plus dangereux ennemi du curé de Mégère, reprit le juge, c'est lui-même. À la rigueur, un criminel peut espérer jouer au plus fin avec la justice. L'innocent, lui, risque trop. Elle lui brise les reins du premier coup. Oh, je ne te reproche pas d'être fidèle à ton ami. Il le mérite. Crois-tu que s'il n'était à mes yeux qu'un homme ordinaire, nous serions là tous les deux à parler de lui? Et d'ailleurs, vous vous ressemblez trop, vous deviez finir par vous rencontrer un jour, car il n'y a pas de hasard, mon bon. Le hasard est l'alibi des imbéciles. Bref, à ton âge, on croit volontiers qu'une première amitié engage la vie, toute la vie. Parions que tu espères bien qu'il te reprendra, hein? Que vous ne vous quitterez plus. » Le regard que l'enfant tenait courageusement fixé sur celui du juge eut un bref éclair, puis s'assombrit aussitôt, n'exprima plus qu'une méfiance hostile, mêlée de crainte. « Voyons, réfléchis une seconde, tu vas comprendre. Le curé de Mégère n'est pas libre. Rien ne prouve que ses supérieurs lui permettront de reprendre demain une place qu'il a quittée dans des circonstances un peu, réellement un peu suspectes. Aux yeux des gens d'ici, convient que ce départ ressemble à une fuite, et dans leur sacré caboche où n'entrent jamais deux idées à la fois, le mot de fuite n'évoque pas grand-chose de bon. Évidemment, tu pourrais le rejoindre ailleurs, mais toi non plus, mon garçon, tu n'es pas libre. Je te vois très bien bouclé au fond d'un petit séminaire où il y a peu de chances que tu rencontres, parmi tes professeurs, un autre grand ami, un autre curé de Mégère. » L'enfant écoutait toujours, sans émotion apparente, mais ses mâchoires serrées, le frémissement de ses paupières, dénonçait au regard expert du juge l'angoisse intérieure qu'une frêle volonté tendue à se rompre ne maîtriserait bientôt plus, qui éclaterait tout à l'heure en sanglots convulsifs. Il tourna le dos à sa victime, ouvrit les persiennes. Un jour triste entra dans la pièce, avec l'odeur écœurante du jardin. « Que dois-je faire ? » dit enfin le Clergeon, d'une voix encore ferme, mais si basse que le juge put feindre aisément de ne pas l'entendre. Et un moment après, il sentit sur son poignet le frôlement d'une main glacée. « Que dois-je faire, monsieur ? » reprit l'enfant vaincu. « Tout dire, » répliqua le juge avec douceur. « Où est-il ? » « Je ne sais pas. » « Nous discuterons de cela plus tard. Au moins, savais-tu qu'il allait quitter Mégère ? » « Non. » « Tu mens. Pourquoi aurais-tu graissé ta bicyclette dès le début de l'après-midi ? » « Parce qu'il m'avait demandé de la tenir prête. Je devais aller faire la course moi-même. » « Quelle course ? » « Porter une lettre, un paquet, je suppose. Enfin, rien de bien lourd, puisqu'il n'a même pas voulu que je répare mon porte-bagages. À la brune, je suis venue avec la machine jusqu'à la mare. Je l'ai laissée là, contre un arbre. Je croyais revenir tout de suite, mais monsieur le curé m'a fait entrer dans sa chambre et nous avons parlé comme d'habitude, tranquillement.
De quoi ?
Oh, de tout. Je ne comprends pas toujours ce qu'il dit, mais ça suffit qu'il vous regarde, de ce regard qu'il a, si doux qu'il fait peur. Je l'ai supplié de me garder, de m'emmener avec lui, n'importe où. Alors il est devenu très pâle. Il m'a répondu des choses que je n'entendais pas bien, parce qu'il tenait ma tête serrée contre sa poitrine. Puis nous sommes sortis dans le jardin. Nous avons été jusqu'au bout de la grande pâture, entre les deux grands peupliers, d'où l'on voit la place de Mégère. Il était déjà tard. Il n'y avait plus, aux quatre tilleuls, qu'une seule fenêtre allumée. Il m'a dit que c'était la vôtre, et il est revenu à la maison tout soupirant, tout pensif. Madame Céleste était partie. Alors il m'a commandé brusquement d'aller chercher ma bicyclette et de la conduire moi-même au tournant de la route de Bièvre, de l'attendre là, qu'il me rejoindrait.
Et il t'a rejoint ?
Presque aussitôt. Il avait en main son sac que j'ai ficelé moi-même sur le guidon, et je l'ai regardé partir vers...
Le petit juge haussa les épaules.
« Tu mens, mon garçon, » fit-il sans colère. « Regarde-toi, n'es-tu pas crotté jusqu'aux reins ? Et si d'ailleurs ton ami, pour son malheur, avait pris la direction de mon bar, il n'aurait pas fait deux lieues, tous les carrefours sont gardés. La vérité, je vais te la dire. Tu as conduit le curé de Mégère par les traverses, jusqu'à la route des Platanes. 8 kilomètres de pierrail, on lit ça sur tes souliers comme dans un livre. Et l'idée n'était pas bête. Pourtant, il s'en est fallu d'un rien que vous ne donniez du nez sur le poste de Camier. Une chance qu'il ait pris le vieux sentier le long de la rivière. Mais quel gadou! Il a dû arriver en bon état à la gare de Presles pour le train de 5h30. Car c'est ce train-là qu'il a pris. Je le connais bien, le tortillard. Et veux-tu savoir encore à quelle station il est descendu?
À Saint-Romain, mon garçon.
Inutile d'ouvrir les yeux comme ça. J'ai évidemment peu de lumière sur le curé de Mégère, mais enfin, j'ai tout de même appris quelques petites choses. Celle-ci, par exemple, qu'il m'a cachée, le diable d'ailleurs sait pourquoi. Eh bien, mon garçon, s'il a manqué la patache avant-hier, c'est parce qu'il s'était arrêté à Saint-Romain. Le curé de Saint-Romain est son ami. Alors, pas besoin de se creuser beaucoup la tête pour comprendre qu'il aura été lui demander aide et conseil. Car, soit dit entre nous, et si j'en crois les premiers renseignements, il ne me paraît pas avoir autant de sympathie dans le diocèse que je l'aurais supposé, notre incomparable curé de Mégère. Il mit les mains derrière son dos et commença d'arpenter la chambre. L'enfant s'était écarté de lui, sournoisement, pas à pas, et réfugié maintenant à l'angle de la pièce, il observait son adversaire, tête basse, d'un regard coulé entre ses longs cils.
« Ne guette donc pas la porte, » dit tranquillement le petit juge.
« À quoi bon ? Je n'ai pas l'intention de te mettre en cage. Tu me seras plus utile dehors que dedans. » Il revint brusquement vers le clairgeon, posa paternellement les deux mains sur ses épaules. « Écoute-moi bien, Nigo. Je vais te faire donner une bicyclette. Tu la trouveras dans 1 heure aux 4 tilleuls. Et si le cœur t'en dit, comme je l'espère, tu iras faire un tour à la campagne, du côté de Saint-Romain, par exemple. Oh, je ne te demanderai pas de me répéter ce que tu auras vu ou entendu. Rapporte seulement à qui tu sais la conversation que nous venons d'avoir, ni plus ni moins. Tu pourras même ajouter que je n'exige rien de ton ami, sinon qu'il revienne et se tienne tranquille ici. À son poste. Sa présence peut empêcher bien des malheurs. Et pour ses secrets, s'il en a, qu'il les garde. Nous n'avons pas trop de temps à perdre en bagatelle. Sortons. » Ils descendirent le jardin, franchirent l'un après l'autre la haie ruisselante. À l'entrée de la seconde pâture, l'enfant ralentit le pas, hésita, puis prenant brusquement son parti, s'enfuit à toutes jambes, disparut. Le magistrat se retint difficilement de le rappeler. Au cours de l'entretien, il s'était senti plus d'une fois ridicule, mais hors de la salle aux volets clos, sous ce ciel louche, il se demandait s'il n'était pas encore dupe de son imagination, ébranlé par les rêves de la nuit. Entre lui et ce gamin singulier, dont le silence ne dissimulait sans doute qu'un sentiment puéril fait de crainte et de vanité, l'ombre du curé de Mégère n'avait cessé de se tenir. Présence certaine, efficace. En somme, il n'avait tant parlé que pour échapper à l'espèce de gêne qu'éprouve le plus effronté lorsqu'il se croit observé par quelque tiers invisible. Cette gêne évanouie,
L'inquiétude persistait, trop vague et d'ailleurs trop humiliante pour qu'il osât discuter franchement avec elle. Non, ce n'était pas seulement le scrupule de compromettre un homme sans doute irréprochable qui le frappait ainsi d'impuissance. Ce trouble datait de plus loin. Il l'avait senti naître en lui dès le premier regard du prêtre, en même temps qu'une sympathie passionnée, inexplicable, plus forte que la curiosité même, car à peine eût-il pu dire encore à cette heure s'il souhaitait ou redoutait de connaître tous les termes du problème dont il poursuivait la solution par simple réflexe professionnel. Avait-il peur? Mais de qui? Ou de quoi? L'air humide, trop doux pour la saison, accablait ses nerfs sans réussir à les apaiser. Il retrouva sa chambre avec dégoût, s'emporta sous le premier prétexte venu au grand scandale d'une des demoiselles Simplicie accourue et qui, à chaque juron, penchait un peu plus sur sa poitrine drapée de pilou mauve, un long visage plein de cette résignation effrayante qu'on ne voit qu'au regard des très vieux chevaux. Il finit par la repousser doucement hors de la pièce et, s'approchant de la fenêtre, tira de sa poche les papiers trouvés dans le portefeuille. Une demi-douzaine de pages, sans doute arrachées à un agenda, et portant le nom et l'adresse de quelques commerçants de mégère. Il allait en remettre l'examen à plus tard, lorsqu'un mince carré de carton glissa de ses mains jusqu'à terre. Il le ramassa avec un grognement de plaisir. C'était une photographie vraisemblablement très ancienne, car elle avait cette teinte jaunâtre qui, dans les vieux albums familiaux, semble la teinte même de l'oubli. L'ayant tournée et retournée entre ses doigts jusqu'à ce que la lumière la frappât de biais, il y vit se dessiner peu à peu l'image d'une jeune fille vêtue de noir, les mains modestement croisées sur le ventre, le dos appuyé à une de ces absurdes balustrades de carton, décor jadis favori des photographes de province. Une jeune fille, d'ailleurs à peine sortie de l'enfance, mais aux traits déjà formés, empreint d'une gravité mystérieuse, encore accentuée par de rides verticales à chaque coin de la bouche amère. N'était la longue natte de cheveux tressés ramenée sur l'épaule et serrée d'un prétentieux nœud de satin, cette figure extraordinaire eût paru sans sexe et sans âge. Le petit juge ne retint pas un nouveau grognement, cette fois de colère. Ne rencontrerait-il donc dans cette diabolique aventure que des visages inclassables, indéchiffrables? Pour rompre le charme, il s'efforça de penser que l'inconnu n'avait, plus que vraisemblablement, rien de commun avec le curé de Mégère. Une parente de Madame Céleste, peut-être? Mais il ne pouvait plus détacher ses yeux de la photographie qu'il examinait maintenant à la loupe. C'était une de ses coquetteries de prétendre reconnaître, à certains signes infaillibles, les acteurs principaux d'un même drame. Certes, il eût été fou d'admettre que la pensionnaire anonyme fut pour quelque chose dans le triste destin de la dame de Mégère, et néanmoins le magistrat devait s'avouer, non sans agacement, que l'entrée en scène de ce personnage inattendu l'avait plus troublé que surpris, comme s'il eût appartenu d'avance à ses songes. Quoi de plus naturel, après tout? Ne lui arrivait-il pas souvent de rencontrer, au hasard d'une vie, en somme peu sédentaire, de ces inconnus dont il disait familièrement qu'ils étaient de sa clientèle? Mais ce visage ne pouvait passer cependant pour celui d'une criminelle vulgaire, et il n'eût retenu l'attention d'aucun gendarme. Le seul esprit de révolte s'inscrivait dans chacun de ses traits précocement vieillis. La révolte est aussi une douleur vraie, profonde, de celles réservées peut-être à l'adolescence, qui tiennent comme elle de la bête et de l'ange, marque pour la vie, parfois à l'insu de la victime même, la sensualité et l'orgueil naissant. Et le souvenir lui revint tout à coup d'une affaire instruite plusieurs années auparavant et qui avait été le plus beau succès de sa carrière. Une jeune fille, servante chez une riche fermière de Puisianta, avait empoisonné sa maîtresse et les soupçons s'étaient portés d'abord sur le beau-fils de la défunte, garçon peu recommandable et qu'on savait perdu de dettes. Il eût été condamné, sans le hasard presque miraculeux d'une lettre découverte sous un monceau de gravois, jamais parvenu d'ailleurs à sa destinataire, où la domestique exprimait à la fille de la patronne, âgée de 15 ans, les sentiments qu'elle nourrissait pour elle en secret. Menacée de renvoi, La misérable n'avait pu supporter l'idée d'être séparée de son idole, perpétrant son crime avec une audace, un sang-froid, une perversité incroyable. Il remit la photographie dans le tiroir et s'aperçut que ses tempes battaient. « J'ai pris la grippe, » pensa-t-il. « J'aurais du moins pris ça. » Bien qu'il s'inquiétât d'ordinaire du moindre accès de fièvre, il accueillit sans déplaisir l'idée d'un repos forcé. Au diable l'enquête! Il finissait décidément par avoir trop souvent l'impression de courir lui-même un risque. Pis encore, de le partager en quelque mesure avec les auteurs ou les complices inconnus du crime. « Je cherche la vérité, » s'avouait-il, mais sans grande envie de la trouver. L'orgueil le retenait seul de convenir qu'il eût volontiers classé l'affaire. Hélas, de longues semaines se passeraient avant que la justice s'avoie vaincue. Un regard jeté sur sa montre l'avertit qu'il pouvait disposer d'une heure encore. Il gagna péniblement son lit et, les yeux déjà clos, ramena l'édredon sur ses jambes. Les mêmes images qui avaient hanté son sommeil surgirent de nouveau et sa volonté engourdie ne choisissait déjà plus, les accueillait ensemble, résignés. Le curé de Mégère, son clergeon, la petite servante ou l'anonyme pensionnaire, qu'avait donc de commun entre tous ces visages? La fièvre donnait à cette question un caractère de gravité, d'urgence presque risible, et il se la posait avec angoisse. La réponse vint tout à coup. Si différents qu'ils fussent, soit qu'ils inspirassent la sympathie, la méfiance ou l'aversion, ces visages maintenant familiers se ressemblaient par on ne sait quoi d'inachevé, d'équivoque, ceux des femmes trop tendues, trop dures, presque viriles, celui du curé de Mégère marqué d'une mélancolie, d'une sorte de tristesse pathétique dont il avait retrouvé le reflet, non sans une gêne secrète, sur la figure passionnée, féminine de l'enfant de cœur.